Bonsoir à tous. Ce soir, j'aimerais introduire cette méditation en lisant ce premier texte dans le livre des Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 10, et nous lisons d'abord le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Ce soir, j'aimerais nous poser la question, qu'est-ce que cela veut dire qu'abandonner l'assemblée? Est-ce que la première lecture, c'est de ne pas venir à l'église? C'est ce qu'on comprend, je pense, quand on lit ce texte pour la première fois. Mais je crois qu'il y a peut-être un peu plus que cela. Pour vous mettre peut-être sur la piste, on peut lire le verset qui précède. Le verset qui précède dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Aux œuvres bonnes, moi, j'ai dans ma version. Ce qui n'est pas tout à fait pareil selon comment on comprend le terme. Pourquoi je dis que celui qui précède est en relation? Parce que finalement, entre ces deux versets, ce sont des idées qui sont très proches, qui sont données là. Il s'agit de veiller les uns sur les autres avec un but bien précis et au contraire de ne pas abandonner pour nous exhorter mutuellement. En fait, si vous voulez, le verset 25 est un petit peu une répétition du verset 24. C'est formulé différemment, mais c'est un peu la même chose. Parce que si on veille les uns sur les autres, forcément, on a le regard et ça veut dire qu'on est auprès d'eux. Sinon, on ne peut pas veiller. On est bien d'accord? Comment veiller sur quelqu'un qu'on ne voit pas? Celui qui abandonne ne veille plus. Celui qui abandonne n'exhorte plus. Et je crois qu'il y a là une vérité qu'il faut aussi comprendre. C'est qu'il est possible. Alors peut-être aussi que ceux qui écoutent ce message enregistré vont peut-être, ça va peut-être leur parler plus. Mais, quoique. Effectivement, on peut être en retrait de l'assemblée, mais il y a une joie à être assemblé, justement. Et il y a une joie à ne pas rester seul dans son coin, parce que la Bible nous invite au contraire. Comment tout seul chez moi, je vais pouvoir ainsi veiller les uns sur les autres? Comment je vais pouvoir donner une parole d'exhortation? Parce qu'il faut bien comprendre que l'œuvre de Christ se fait à travers nous. Et si on dit que le Saint-Esprit, c'est le Consolateur, on va le voir un peu plus. Celui qui exhorte, il a le même rôle que le Saint-Esprit pour nous, il va être un consolateur pour les autres. Celui qui exhorte sera un consolateur pour les autres. Si je suis inspiré du Saint-Esprit, il va m'inspirer des paroles de consolation que je vais pouvoir donner aux autres, et alors je vais exhorter. C'est ainsi que la vie de l'Église a lieu. Donc la vie de Christ, Christ se manifeste dans l'Église seulement s'il y a des frères et sœurs. S'il n'y a personne, comment Christ va-t-il se manifester? C'est pas possible. Et pour autant, et il y a aussi l'inverse, qui est que je peux me retrouver physiquement dans l'assemblée, mais je l'ai abandonné quand même. Je peux venir à l'église, je peux écouter des prédications, et pourtant, j'ai abandonné l'assemblée. Pourquoi? Parce que j'ai perdu ce regard. J'ai perdu cette attention que je devrais avoir sur celui qui m'entoure. J'ai plus ce regard qui est prêt à veiller sur les autres. Je n'ai plus à cœur d'exhorter celui qui est autour de moi, qui est peut-être découragé. Et je viens juste pour croiser les bras et recevoir une bonne prédication, pour essayer de m'améliorer moi-même dans ma vie. Mais le sort de tous ceux qui m'entourent m'est bien égal finalement. Attention, parce que nous avons abandonné notre assemblée. Ça va très très loin, cette chose-là. Je suis allé voir ce que ça voulait dire, abandonner. Il y a deux sens principaux. Abandonner, c'est renoncer à, ne plus vouloir de. Abandonner sa fortune à quelqu'un, par exemple. Si vous voulez abandonner votre fortune et me la donner, pas de problème. Abandonner, c'est quitter, c'est laisser définitivement. Peut-être quelque chose dont on doit s'occuper. On l'abandonne, ça veut dire qu'on y avait mis du cœur jusqu'à présent. Et du jour au lendemain, on lâche l'affaire. Et on abandonne. Donc c'est bien quelqu'un qui choisit, ayant pratiqué, ayant par exemple ici, il est question de veiller les uns sur les autres, il est question de l'exhortation, on va voir un peu plus en détail. On peut l'avoir pratiqué, mais si j'abandonne, ça veut dire qu'à un moment donné, j'y renonce, je ne le pratique plus. Et j'abandonne mon assemblée déjà, là, même si j'y suis encore physiquement. Et si j'ai peut-être pris à cœur quelqu'un, sur qui j'ai le regard particulier, mes yeux sont posés sur un frère, une sœur en particulier, que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est très bien. Et à un moment donné, on va ne plus la voir, on ne va plus l'appeler, on casse le contact, et on abandonne la personne. Je me pose la question, d'accord, on lit dans ce verset que il y a un commandement, un conseil, parce que c'est un conseil. Si on le lit sous le sens du conseil, on essaiera d'aller plus loin d'ailleurs. Si on s'arrête juste au commandement, on va vouloir l'appliquer ou ne pas l'appliquer, et on va s'arrêter là. Si on comprend que c'est un conseil, on peut aller plus loin sur la raison qui fait que Dieu nous dit ça. Je me suis interrogé sur la raison qui peut faire qu'on abandonne. Parce qu'on peut avoir de bonnes raisons, entre guillemets. On peut avoir de bonnes raisons de vouloir abandonner. Quelqu'un qui abandonne, c'est quelqu'un qui a essayé. Et qui, à un moment donné, s'est découragé. Pourquoi ? Alors, j'ai regardé plusieurs... J'ai réfléchi et je me suis dit, peut-être dans un premier temps... On pouvait avoir été déçu. Déçu par quelqu'un de très spirituel qui nous a fait une remarque qu'on avait du mal à avaler. Alors peut-être que la remarque était valable. Peut-être qu'elle a été bien dite ou mal dite, ça dépend comment nous on l'a reçue. Peut-être aussi que la personne, justement, elle est spirituelle ironiquement et nous a donné une remarque qui n'était pas du tout justifiée. Peu importe. Ça nous fait mal, on reçoit mal, et il y a une déception. Et alors que nous sommes en train de travailler, alors que nous sommes en train d'œuvrer, on voit que tout autour, il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a rien. Et on se dit, mais Seigneur, à quoi ça sert tout ce que je fais ? Il n'y a personne qui le voit. Et c'est ainsi que peuvent venir des déceptions. On pourra, si on est dans cet état-là, il est sûr que ce n'est pas le moment d'essayer d'exhorter quelqu'un. Si moi, je n'ai pas reçu la consolation... Ça va être difficile de consoler moi-même quelqu'un. Si moi, je suis dans un état où c'est la lutte intérieure, où il n'y a pas la paix, etc., comment je vais pouvoir transmettre un message de paix à mon frère, à ma sœur, c'est vrai. Occupons-nous de nos affaires personnelles d'abord, c'est vrai. Mais réglons-les surtout. Parce que c'est pas régler nos affaires personnelles, c'est pas la finalité. Parce que Dieu veut que nos regards soient tournés vers les autres. Une personne nous a fait du mal, ou une personne volontairement nous a fait du mal, ou alors une personne a été maladroite et on lui en veut. Et il faudrait, imaginons ce cas, que cette personne vienne nous demander pardon. On est dans une situation où on a été offensé. Et comme c'est souvent possible, on écoute cette petite voix qui nous incite à ne pas pardonner. J'ai réfléchi aussi sur ce sujet. Je me suis posé la question, quel avantage il pourrait y avoir ? J'ai essayé de me poser la question comme quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. J'ai posé la question sur Google. quel avantage de ne pas pardonner ? Ben, j'ai rien vu. J'ai vu aucun avantage. Et j'ai au contraire même vu des articles profanes qui allaient dans le sens de pardonner. Le diable, il essaye de nous faire croire qu'en ne pardonnant pas, on garde un trésor, là, précieusement, en nous. Le diable essaye de nous faire croire que nous avons un privilège d'obtenir quelque chose que nous pourrons donner ou pas, selon notre bonne humeur. Ça, c'est ce que le diable nous fait croire. Parce qu'en réalité, celui qui ne pardonne pas, il devient esclave. Alors, sur les sources profanes que j'ai vu que ne pas pardonner à quelqu'un, ça engendre, tenez-vous bien, ça peut se tenir, ça se comprend après facilement quand on l'entend, ça engendre de mauvaises conséquences sur notre corps. Quand on ne pardonne pas, on augmente la fréquence cardiaque. Quand on ne pardonne pas, on augmente la tension artérielle. Quand on ne pardonne pas, on augmente le stress. Quand on ne pardonne pas, on augmente la fatigue. Quand on ne pardonne pas, on va jusqu'à encourir des risques de dépression. Ça va loin de ne pas pardonner. Il est beau ce privilège. Maintenant, tout ce que je viens de vous citer, vous imaginez tout ce qui peut... Qu'est-ce qui se passe quand je suis très fatigué ? Qu'est-ce qui se passe quand je suis très stressé ? Qu'est-ce qui se passe quand ma tension artérielle est trop forte ? Etc. On reprend ces petites... juste ça comme des points de départ et on va voir un peu plus loin ce qui se passe. Et on imagine jusqu'où peut nous mener de ne pas pardonner. C'est incroyable. Sur notre corps, les simples conséquences qu'il peut y avoir quand on ne pardonne pas à quelqu'un, c'est loin d'être un privilège, c'est un esclavage. Et ce soir, j'aimerais peut-être que tu comprennes que si tu es dans cette situation où quelqu'un t'a fait du mal, si Dieu te dit qu'il faut pardonner, c'est pas simplement pour délier, pour que l'affaire soit résolue. C'est aussi pour ton bien à toi. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu te fais du mal. À toi. Ton corps, il ne le vit pas bien. Donc, on peut raisonner à l'inverse. Si je pardonne, je serai moins fatigué, je serai moins stressé, il va y avoir la paix qui va venir, la dépression s'éloigne, etc. C'est quand même intéressant de voir le lien sur notre corps. Maintenant, on peut considérer, bien sûr, le point de vue de Dieu. Si je pardonne pas, entre guillemets, ça veut dire que je crois que par rapport à cette personne qui m'a offensé, Dieu ne peut rien faire pour résoudre la situation. Que Dieu n'a rien vu, qu'il n'a rien entendu, qu'il s'en fiche que la personne m'ait offensé. On va donner à Dieu des choses qui sont fausses. Et là, le nec plus ultra de cette attitude, c'est que si moi je ne pardonne pas, je m'autorise quelque chose que Dieu ne s'est pas autorisé lui-même. Alors ça, c'est le top niveau. Dieu pardonne tout. Alors si Dieu pardonne tout, qui suis-je moi pour ne pas tout pardonner ? Si je ne pardonne pas, je me mets au-dessus de Dieu. Parce que je m'autorise quelque chose que lui-même ne s'est pas autorisé. Ça va très très loin quand même, comme affaire. Parce que si je me mets au-dessus de Dieu, ça veut dire que j'enfreins un des commandements qui est que Dieu est le seul Dieu qui doit être adoré et il n'y a personne au-dessus de lui. Le diable est tombé dans le péché en se mettant au-dessus de lui, pour une autre raison, certes, mais à partir du moment où je me place au-dessus de Dieu, je commets un péché. Autrement dit, quand je ne pardonne pas, je commets un péché. Je ne sais pas si vous réalisez jusqu'où ça va. Mais Dieu, il veut pas qu'on reste là dans cette situation. Il ne veut pas que nous restions ainsi prisonniers de ce fait-là, de ne pas pouvoir pardonner. Mais il n'en relève que de nous, de notre propre volonté. Demandons au Seigneur sa grâce pour qu'il nous aide dans ces situations de déception à pardonner. Parce que nous avons tout à gagner à pardonner. On a tout à gagner pour notre corps, on a tout à gagner pour notre âme. Parce que à ce moment-là, en pardonnant, on se met bien dans les clous par rapport à Dieu. Et Dieu nous pardonne aussi dans ce cas. Quand je pardonne, j'abandonne toute une souffrance, toute une douleur. Parce que c'est ça, hein, de ne pas pardonner, c'est de la souffrance qu'on accepte volontairement. Et si on continue dans ces déceptions, effectivement, à un moment donné, on va nourrir de la haine, de la colère, etc. Et on en arrive à des discours, mais de toute façon, il n'y a pas d'amour dans cette église, moi je m'en vais. Et j'abandonne mon assemblée. Ou alors, mais moi je ne fais plus rien. Un collaborateur dans tel ou tel service m'a dit une parole désagréable. Eh bien, puisque c'est comme ça, moi, j'arrête tout. Je croise les bras et j'attends que le temps passe. Je ne crois pas que cette attitude plaise au Seigneur. Mais c'est pour dire à quel point une déception peut nous amener. Elle peut nous amener, alors qu'on a souffert, mais on s'autorise des souffrances supplémentaires. Et le but final, c'est qu'on abandonne tout et personne n'est content. Une deuxième source de découragement, enfin de qui peut nous amener à abandonner, c'est la fatigue, tout simplement. Le découragement. On a essayé, on a fait ce qu'on a pu, on a continué, et puis voilà, il n'y a pas cette reconnaissance, il n'y a rien qui se passe comme on voudrait, tout va mal, et pourtant on le fait avec tout notre cœur. Alors on s'accroche comme on peut, parce que sans s'en rendre compte, et on est en train de compter sur nos propres œuvres. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On finit par être découragé, par être fatigué. Il y en a un qui a dit ça dans l'Ancien Testament, qui disait, mais il n'y a que moi, il n'y a que moi qui est droit, il n'y a que moi qui est juste, je suis tout seul à combattre. C'est le prophète Élie dans sa caverne. Et Dieu lui dit, mais non, tu n'es pas tout seul. C'est ce que toi tu crois. Mais c'est faux. Je crois que, quel que soit le service, quelle que soit l'activité que nous avons, quoi que nous fassions, parce que là il est question simplement d'exhorter, de veiller les uns sur les autres, je crois qu'il nous faut accomplir notre part. Et même s'il y a des déceptions, même si on sent que tout va pas tout à fait comme on voudrait, c'est à Dieu qu'il faut nous en remettre. Et celui qui fait cela, il se libère d'un poids, il se libère d'un fardeau, parce que quelque part, rester les yeux fixés sur ça, c'est prendre la charge de toute la chose, et Dieu nous a jamais demandé de porter toute cette charge. Forcément, on va s'épuiser. Forcément, on va se fatiguer parce que ça va pas aller comme on veut. Et on ne se repose pas en Dieu. On ne confie pas à Dieu le problème. Plusieurs versets me sont venus à l'esprit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si j'ai la paix dans mon cœur, il me sera bien plus facile d'accepter la situation, qui n'est pas certes celle que j'aurais voulu, mais après tout, moi, dans mon cœur, j'ai décidé de rester fidèle à Dieu. Et ça, c'est le plus important. Cet autre verset où Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » On n'a plus de force, alors on abandonne. Parce qu'on est lassé, on est chargé par le poids du fardeau. Le problème, c'est qu'on n'a pas compris que Jésus était à côté de nous et qu'il était prêt à travailler avec nous. On veut faire le boulot tout seul. Alors forcément, on s'épuise. Seulement, il est question d'un travail à deux, là. La suite dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le travail qui est accompli, il est fait avec Jésus-Christ, normalement. Et on s'aperçoit que vraiment, quand on travaille avec lui, la part qui est la nôtre est petite. Et il y a moins sujet à se décourager, d'un seul coup. Est-ce qu'on aurait oublié peut-être que Dieu nous connaît, qu'il connaît nos forces, nos capacités? J'aimerais poser cette autre question. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Pourquoi est-ce qu'on œuvre dans l'Assemblée? Quelles sont nos aspirations au final? Est-ce que nous considérons l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous le faisons pour nous ou est-ce que nous le faisons pour Dieu? J'aimerais parler de l'exhortation. Je parlais de l'abandon, des raisons qui peuvent nous amener à abandonner. Et là, il est quand même question d'exhorter. Je relis ce verset. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Souvent, on est là, Seigneur, montre-moi ta volonté. Et souvent, le Seigneur nous répond, mais on n'entend pas. Le Seigneur, il nous répond, mais je te l'ai déjà montré, ce que je veux, mais tu veux pas. Il y a des gens autour de nous, il y a des frères et des sœurs en Christ qui sont là autour de nous, qui peuvent avoir besoin de nous, mais on les regarde même pas, alors que ce sont des personnes en qui Jésus-Christ lui-même vit. C'est pas que des personnes, c'est des personnes en qui Jésus-Christ vit. Je parle pour les frères et sœurs, bien sûr. Est-ce que, quand on considère juste ça, ça veut dire que le service, la visite qu'on ne va pas faire, le service qu'on ne rend pas, c'est des visites, des services, des bonnes paroles, d'encouragement, qu'on ne donne pas, entre guillemets, à Jésus-Christ lui-même. Et Jésus le dit d'ailleurs. Toutes les fois que vous aurez rendu visite à un de ceux-ci, c'est à moi que vous l'aurez fait. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est vrai. Il nous faut considérer, dans ceux qui nous entourent, Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, pourquoi il vivrait pas dans le cœur de mon frère ou ma sœur? Et est-ce que je considère, quand je regarde mon frère ou ma sœur, est-ce que je considère qu'en lui ou en elle, il y a Christ? Et quand il y a un besoin, est-ce que ça me titille ou pas? Si Jésus-Christ en personne était là et qu'il vous disait « Mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu viennes me chercher pour aller à tel endroit », on ferait le trajet ou pas? Mais bizarrement, quand Christ est caché dans une personne, c'est plus la même musique, ça devrait pas être le cas. J'essayais d'imaginer de ce que ça pouvait être justement l'assemblée. Et imaginez, pour qu'on puisse un peu réfléchir, vous vous mettez une épine dans la main. Vous savez que votre corps, l'apôtre Paul compare l'Église à un corps, le corps de Christ. D'accord? Donc essayons de réfléchir sur cette image. C'est pas pour rien qu'elle nous ait donné cette image. Notre corps est composé de membres. J'ai un corps, j'ai des mains, j'ai un bras, j'ai des bras, j'ai des jambes, etc. Imaginons que je me fasse une épine. Je m'enfonce une bonne épine dans la main. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir mal, normalement. Alors, la douleur, qu'est-ce que c'est? C'est un signal qui va de ma douleur jusqu'à la tête. Qu'est-ce que dit ma tête? Elle dit à la main droite, eh oh, il y a ta main gauche qui a besoin de toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau commande à ma main droite d'aller chercher l'épine et d'essayer de l'enlever dans la main gauche. Aviez-vous déjà réfléchi à ça? Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire spirituellement? L'épine qui s'enfonce et qui dit, eh oh, j'ai mal. Le membre parle à la tête et lui dit qu'il a mal. Ça s'appelle la prière. Et la tête commande à l'autre membre d'aller délivrer l'autre. Mais ça s'appelle aussi la prière. Parce qu'il y a la prière qui demande et il y a la prière qui écoute. Si je fais part de mon besoin à Dieu, il pourra susciter un autre membre qui pourra répondre à mon besoin. Mais si moi je dis, mais non, 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 il va pas m'aider, moi je reste sûr, mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'épine, elle va rester, parce que la main peut pas elle-même l'enlever. Il y a des besoins que Dieu permet dans notre vie qui ne pourront être comblés que par les autres. Et si je m'enferme dans mon coin, je me prive des bienfaits des autres. C'est un simple exemple qui nous montre comment le corps fonctionne. Mais de cet exemple, il faut qu'on retienne comment le corps de Christ doit fonctionner. Nous sommes tous des membres du corps. Le jour où on a mal, le jour où on a des difficultés, faisons-nous part à Dieu. Est-ce que nous lui disons le problème que nous avons? Est-ce que nous avons la liberté d'avoir peut-être quelques frères et sœurs, peut-être de confiance à qui parler pour évoquer le problème? Parce que c'est toujours pareil, si cette personne elle a Christ en elle, elle aura aussi peut-être quelques bons conseils à nous donner. C'est comme ça que fonctionne le corps de Christ. Les membres ont tous besoin les uns des autres. Et si je reste tout seul, je me prive. Alors, exhorter, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que si on peut être sûr de quelque chose qui est bien la volonté de Dieu, c'est d'exhorter. Là, on est sûr à tous les coups de ne pas se tromper. Si on exhorte quelqu'un, forcément, on va faire la volonté de Dieu. Exhorter, c'est consoler. C'est intéressant parce que je suis allé regarder dans un dictionnaire biblique et il fait ce parallèle justement entre le Saint-Esprit, ce qu'il fait pour nous, l'exhortation correspond à ce que nous faisons, ce que le Saint-Esprit fait pour nous, aux autres. Je ne sais pas si vous avez bien compris, je le répète. Tout ce que le Saint-Esprit fait pour nous, si nous le faisons pour les autres, ça s'appelle de l'exhortation. En gros, nous devenons intermédiaires du Saint-Esprit. Mais la source, elle est bien la même, c'est le Saint-Esprit. Alors exhorter, c'est quoi? Si on regarde ce que fait le Saint-Esprit est appelé le consolateur. L'exhortation, c'est une consolation. Le Saint-Esprit nous défend. Exhorter, c'est défendre, c'est bizarre. Mais si une personne se sent accusée par le diable par rapport à certaines choses et vient se confier à vous, qui voilà, je vis ça, je le vis pas bien, etc., alors, en exhortant, je vais pouvoir, en regard de la parole de Dieu, donner de bons conseils pour peut-être orienter la personne. Donc, il y a une part d'enseignement aussi dans l'exhortation. Mais c'est défendre. Parce que quand on voit que notre frère ou notre sœur est dans la difficulté, qu'allons-nous faire? On va intercéder. Et là, on prend sa défense. On fait appel à Dieu lui-même pour que notre frère, notre sœur remporte la victoire face à l'accusateur, face à celui qui la met dans la souffrance, et face à une personne qui est sur le point justement d'abandonner, grâce aux autres membres qui vont intercéder, qui vont agir comme il faut, cette personne pourrait ne pas abandonner parce qu'elle aura reçu l'exhortation dont elle avait besoin. Exhorter, c'est aider aussi. Saint-Esprit nous aide parce qu'il nous donne différents dons, différentes choses. Il y a le don de guérison, il y a les dons de prophétie, etc. Mais à notre niveau plus pratique, une personne qui a besoin, on peut être amené à l'aider aussi. C'est ça l'exhortation. L'exhortation, c'est aussi encourager. C'est relever quelqu'un qui est sur le point de tomber, comme je disais. Ne croyez-vous pas qu'il y a suffisamment de situations autour de nous où on pourrait être amené à exhorter quelqu'un? Alors, on pourrait se dire, oui, mais Seigneur, j'ai un gros problème, c'est que j'ai pas d'amour pour mes frères et sœurs. Ça peut arriver. Je crois que c'est quelque chose aussi qu'il nous faut demander. Seigneur, donne-moi de l'amour pour mes frères, pour mes sœurs, pour que je puisse être en mesure d'être utile aussi dans l'assemblée. Parce que, comme le dit l'apôtre Paul, je peux faire quoi que ce soit, si j'ai pas d'amour, ça sert à rien. C'est du vent. Je peux aller chercher une mamie qui a besoin d'être transportée, si je le fais pas avec comme source l'amour, mais plutôt la contrainte. Alors je le fais, c'est bien, la mamie est contente, mais aux yeux de Dieu, sachez que ça vaut rien du tout. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc si je ne donne pas avec joie, aux yeux de Dieu, j'ai capitalisé zéro. Parce que l'état de cœur est important. Dieu nous appelle à ce que notre amour se développe. Et pour terminer, j'aimerais qu'on voit, parce que justement ce verset se termine entre guillemets bizarrement, parce qu'il y a quand même un avertissement à la fin. Exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Et là, je crois qu'il s'agit du danger de ceux qui ont abandonné. Je reprends mon petit exemple de l'épine. Quand vous savez, il y a 2 ans de ça, j'ai fait une chute d'échelle, je me suis cassé les bras. Bon, j'ai pas été opéré en même temps pour les 2 bras, mais ça a été de l'anesthésie locale. Et je me revois dans la chambre, l'infirmière, elle me dit, mais surtout, n'oubliez pas de prendre votre bras. Sur le coup, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Et j'ai trouvé ça incroyable, parce qu'au moment où j'ai voulu me lever, j'ai pas pris mon bras. Et ça a fait ça. Le bras est resté à sa place. Il était endormi. Ma tête commandait au bras de venir, mais le bras est resté à sa place. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre le bras. Pour ceux qui ont été anesthésiés, ils savent de quoi je parle. Mais je crois que ça nous enseigne beaucoup. L'insensibilité. Quand on est insensible, on est aussi insensible à la moindre intrusion. Un membre qui est endormi, vous pouvez prendre un couteau, un cutter, ce que vous voulez, vous ne sentirez rien. Si je suis insensible, si je suis endormi, alors le diable peut faire quelque part des intrusions. Et je m'en rendrai même pas compte. Parce que il n'y a plus cette vie de Dieu en moi. Le jour où je vais me retrouver confronté au péché, ça va rien me faire. Je suis endormi. Je suis insensible. Et le diable peut me faire retomber très facilement. Quand on abandonne, on s'endort. Quand on n'est pas dans l'activité pour le Seigneur, on s'endort. Parce qu'on est paresseux. Il y a autre chose de terrible quand on, justement, ce que je disais, quand on est insensible, endormi, la tête n'a plus le pouvoir. Elle peut plus commander le membre. Jésus-Christ ne peut plus se servir de moi parce que je suis endormi. Je suis inutile pour le corps. Un bras qu'il faut prendre, il occupe inutilement le bras qui fonctionne pour le tenir. Un membre endormi est une charge pour le corps, en d'autres termes. Si je suis endormi, c'est que mes nerfs ne fonctionnent plus. Ils sont endormis, justement. Il est question, je vous ai dit tout à l'heure ce que ça voulait dire, quand on a la douleur, qu'est-ce qui se passe? Le membre fait appel à la tête, qui reçoit l'information, qui commande l'autre membre, etc. Mais si je suis endormi, ça veut dire que je ne peux plus faire appel à la tête et que la tête ne peut plus faire appel à moi. Autrement dit, la vie de prière, il n'y en a plus. Celui qui n'a pas de vie de prière, il est endormi. Et Dieu nous appelle, nous supplie sur cette nécessité absolue que d'avoir cette vie de prière. Parce que si je suis endormi, eh bien, la tête ne peut plus avoir de contact avec moi. Que ce soit moi vers elle, que ce soit elle vers moi, je suis endormi, je suis insensible. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai mon épine là, j'ai rien senti, et je la laisse pendant 3 semaines alors que c'est grave? Qu'est-ce qui va se passer? Une infection. Si je ne traite pas le problème, parce qu'il y a l'insensibilité, parce que ça va empirer. Et des fois, une grosse infection fait qu'on est obligé de couper. Ça va très très loin, cette image. Mais ça nous fait réfléchir. Parce que nous sommes tous membres du corps. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul écrit ceci, Éphésiens 5, 14. C'est pourquoi il est écrit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Celui qui est endormi n'est pas prêt pour le retour du Seigneur. » Et j'aimerais terminer là-dessus, parce que le jour s'approche, comme le dit ce verset, dans la parabole des 10 vierges, comment sont les vierges? Endormies. Mais heureusement, il y a quand même la voix de Dieu qui est là. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Et là encore ce soir, c'est l'occasion peut-être de se le rappeler. Le Seigneur Jésus revient. Et il nous faut nous ressaisir, frères et sœurs. Si jamais nous avons plus cette vie de prière, si nous sommes endormis, nous sommes séparés de Dieu. Dans Amos, il est écrit, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » N'abandonnons pas notre assemblée, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Il faut savoir que quand on s'exhorte mutuellement, quand on est dans l'assemblée, on donne, mais on reçoit. Et c'est comme, peut-être, on a déjà fait, je me rappelle quand je faisais des colonies, des camps, on faisait des jeux où on était en équipe et il fallait se défendre. Et la meilleure tactique pour bien se défendre, c'était de rester groupé. J'en avais fait des jeux comme ça. Et celui qui partait s'isoler, il devenait une cible et il était faible parce qu'il n'y avait pas les autres autour. Il faut faire bloc. Il faut rester ensemble. Pourquoi? Parce que moi, je fais du bien à mon frère, à ma sœur, et ma sœur, mon frère, me fait du bien aussi. Et c'est ainsi qu'on se fait du bien mutuellement. Et c'est ainsi qu'on reste attaché au Seigneur parce que la vie de Christ a lieu, le sang coule. La vie a lieu. Et les membres sont là, ils font tous partie du corps, et le corps accomplit son œuvre. Quand le corps fait quelque chose, si de mes mains je participe à la construction quoi que ce soit, les membres sont utilisés, les yeux, les oreilles, les mains, tout. Et on participe à la fabrication de quelque chose. On voit pas peut-être la main, peut-être qu'elle fait quelque chose, elle ne se rend pas compte de ce à quoi elle prend part. Parce que la main, pour elle, si je bâtis un mur, elle ne fait que saisir des objets. C'est pas marrant d'être une main. On fait que saisir des objets. Ça vous fait sourire peut-être, mais c'est ça. Mais si on considère d'un point de vue un peu plus macroscopique ce qui est fait, il y a un bâtiment qui est en train d'être édifié, auxquelles mes mains participent. Alors elles ne font à chaque fois que saisir des objets, peut-être. Mais il n'y a pas que ça. Et nous, on a tendance peut-être à regarder juste nos pieds. On regarde simplement ce qu'on est en train de faire. Et on ronchonne sur ce qu'on fait parce que on est découragé, on a eu des déceptions, etc. Mais peut-être aurions-nous besoin de demander au Seigneur quelle est sa vision à lui. Aide-moi à rentrer dans ton œuvre. Parce qu'il y a une grande œuvre qui est faite par Dieu, où effectivement, c'est pas les membres qui sont en vue, mais c'est le corps dans son ensemble. N'abandonnons pas notre assemblée, mes frères et sœurs. Et je ne fais pas un appel à ne pas quitter l'Église, à ne pas quitter ses locaux, vous m'avez bien compris. Mais dans notre cœur, n'abandonnons pas notre assemblée, veillons les uns pour les autres. Ayons cet esprit d'exhortation les uns pour les autres. Ayons ce regard d'amour sur ceux qui sont là autour de nous. Parce que dans mon frère, dans ma sœur, il y a Christ qui vit. Il nous faut ce regard parce que on en a besoin. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Oui, comme le dit ce chant, nous allons dans la joie, dans la maison de Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver dans l'assemblée. Seigneur Jésus, si ce corps qui est le corps de Christ, l'Église, tu l'as voulu ainsi, c'est parce que c'est pour notre bien. Seigneur, je te prie pour nous tous qui sommes là ce soir. Je te demande ta grâce pour que tu puisses nous aider à considérer comment tu vois l'œuvre, comment tu vois l'assemblée, comment tu vois notre part aussi. Seigneur, aide-nous à compter sur ta grâce. Et si ce message a interpellé une personne, je te prie, Seigneur, pour que par ton esprit, Seigneur, tu puisses l'aider à s'examiner, que tu puisses l'aider à se reprendre peut-être, à reconsidérer son comportement, pour qu'il y ait un changement d'attitude. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as laissé, ces images qui nous aident à comprendre ta parole aussi. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous découvrons, nous redécouvrons ta parole à chaque fois. Merci, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous pour que tu puisses nous accorder ce dont nous avons besoin et surtout nous donner d'avoir ce cœur sincère et droit devant toi. Et te demander pardon si nécessaire. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce. Amen.